Ce soir, nous sommes à la semaine 7 du cours Les fondements de la foi chrétienne. Nous allons parler ce soir du Saint-Esprit. Mais comme c'est un sujet très vaste et que nous n'allons pas en profondeur, ce soir, nous allons voir seulement que la nature du Saint-Esprit, les symboles, et c'est la semaine prochaine qu'on va parler de son œuvre dans le croyant et dans l'Église. C'est la semaine prochaine qu'on va parler du baptême du Saint-Esprit puis des dons de l'Esprit. Mais ce soir, on va s'attarder sur, premièrement, la nature du Saint-Esprit. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force, une influence ou une puissance quelconque. C'est une personne. Puis il possède les attributs qui sont propres à une personne. Par exemple, il pense. Dans Romains 8, verset 27, il est écrit « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il pense, il est une personne, il pense. Il a une volonté propre. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il veut, c'est sa volonté, selon sa volonté. Le Saint-Esprit éprouve des émotions. Dans Romains 15, verset 30, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et il peut être touché par les actions d'autrui. Dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, il peut être affecté par ce qu'on peut faire ou dire, il peut être attristé. Et remarquez que la tristesse est aussi une émotion. Dans les versets où il est question du Saint-Esprit dans la Bible, bien, on utilise toujours le pronom personnel « il ». Donc, si on emploie un pronom personnel, c'est parce qu'il est une personne. Tous ces arguments démontrent que le Saint-Esprit est une personne et non pas seulement une puissance ou une influence spirituelle. Puis la deuxième chose à savoir sur la nature du Saint-Esprit, c'est oui, il est une personne, mais il est une personne divine. Le Saint-Esprit est divin. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Comment voyons-nous dans la parole qu'il est divin? Bien, premièrement, le Saint-Esprit est appelé Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le mot traduit par Seigneur est kurios, l'équivalent grec de l'hébreu Adonai, qui est un nom donné à Dieu. Donc l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'Esprit est Dieu. Dans Actes 5, versets 3 et 4, il est écrit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il a menti au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors d'abord, Pierre dit à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit, et ici plus loin, il dit qu'il a menti à Dieu. Donc mentir au Saint-Esprit, ça équivaut à mentir à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, il est divin. Et deuxièmement, comment on voit qu'il est divin? Bien, le Saint-Esprit est associé à la personne et aux œuvres divines. Par exemple, lors de la création, le Saint-Esprit était présent et il agissait dans la création. Dans Genèse 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le Nouveau Testament révèle Dieu le Père qui envoie son Fils dans le monde, ainsi que le Père et le Fils qui envoient l'Esprit. On voit les trois personnes de la Trinité qui agissent ensemble. Dans Jean 8, verset 18, « Je rends témoignage de moi-même, c'est Jésus qui parle, et le Père, Dieu le Père, qui m'a envoyé, rend témoignage de moi. » Et dans Luc 24, verset 49, Et voici, j'enverrai sur vous, c'est le Fils, Jésus qui parle, ce que mon Père, Dieu le Père, a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Alors, on voit les trois qui sont à l'œuvre. Au baptême de Jésus, encore, on voit les trois personnes de la Trinité divine qui se manifestent. Le Saint-Esprit est associé avec le Père et le Fils dans cette manifestation. Le Fils est représenté par la personne de Jésus. L'Esprit apparaît sous la forme d'une colombe, puis la présence du Père est révélée par la voix audible que l'on entend qui vient du ciel. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, Jésus, le Fils, Dieu le Fils, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » On a ici le Saint-Esprit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il parle de Jésus, c'est le Père qui parle de son fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans ces versets, nous voyons que même si le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils, il est une personne distincte. Vous remarquerez, il est associé, mais il n'est pas confondu avec le Père et le Fils. Il est une personne distincte, trois personnes en une seule. Vous avez ici la doctrine de la Trinité. Dans l'ordre donné à ses disciples, avant son ascension, Jésus mentionne les trois personnes divines. Celles-ci portent respectivement les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Il est à noter que le mot « nom » est au singulier, alors qu'il devrait être au pluriel, ce qui met l'accent sur l'unité de la divinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est dans Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. » Au nom est au singulier, N-O-M, il n'y a pas de S. « Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Parce qu'il y a une seule personne, un seul Dieu, c'est-à-dire, mais en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Dans la salutation de Paul à l'Église de Corinthe, le Saint-Esprit est associé encore une fois avec le Père et le Fils. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, c'est Dieu le Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, nous voyons par là que le Saint-Esprit, nous avons vu, il est une personne divine, la troisième personne de la Trinité, il est Dieu. Maintenant, nous allons voir les symboles du Saint-Esprit dans la Bible. La Bible emploie des symboles à partir d'éléments que nous connaissons, pour nous aider à comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons relevé sept symboles. Le premier symbole, le souffle ou le vent. C'est la même chose. En hébreu et en grec, le mot « esprit » signifie « souffle » ou « vent ». Dans Job 32, verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. L'esprit est comparé au souffle. » Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est l'Esprit. Jésus lui-même, lorsqu'il parle de l'œuvre régénératrice de l'Esprit, dit dans Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il est comme le vent. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il est écrit dans Jean 20, verset 22, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. » Saint-Esprit associé au souffle. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il était accompagné par un bruit comme celui d'un vent impétueux. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit est associé au vent, encore une fois. Puis le symbole du vent souligne l'action impétueuse, invisible et imprévisible du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Le Saint-Esprit, son action est impétueuse, mais elle est également imprévisible. Il faut être toujours attentif à l'Esprit de Dieu, à son action, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous pousse à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Il faut être attentif, il faut être sensible à l'œuvre, à l'action de l'Esprit. Il montre aussi le symbole du vent, que cette action est céleste, qu'elle vient d'en haut. Parce que le vent, c'est dans les airs, c'est pas sous terre. Le vent, c'est céleste. Alors, il montre que cette action, ce symbole du vent, nous aide à comprendre que cette action est céleste, qu'elle vient d'en haut, qu'elle est souveraine et infiniment au-dessus de l'homme, de nous. L'homme ne peut pas contrôler le vent. Comme le Saint-Esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant, nous l'avons lu tantôt, cela signifie qu'il émane directement de Dieu, qu'il manifeste donc la présence divine. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il manifeste la présence divine. D'ailleurs, il est lui-même Dieu, ça va de soi. Deuxième symbole, le feu. Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Il parle de Jésus. « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le Saint-Esprit comparé au feu, ici. Le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun des disciples. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 2, les versets 3 et 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Pas aucune exception. Et ils furent tous, sans exception, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, c'est encore selon la volonté de l'Esprit, c'est lui, le Saint-Esprit, qui a décidé qui va parler quelle langue. C'est lui qui a donné les langues, selon sa volonté, parce qu'il est une personne. Et ici, il est comparé au feu. Selon l'usage que nous retrouvons à travers les Écritures, le feu ne symbolise pas la puissance du Saint-Esprit, mais son action purificatrice. Il est venu purifier les disciples qui étaient rassemblés afin qu'ils soient aptes après à œuvrer pour le Seigneur. Il est celui qui juge et consume toute impureté. Le Saint-Esprit convainc de péché et de jugement. Et il brûle en nous tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, lorsqu'on le laisse agir, évidemment. Marc 9, versets 47 et 49. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » 1 Corinthiens 3, versets 13 et 15. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On parle de l'œuvre des gens. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans ces deux passages, nous voyons premièrement, que le croyant sincère verra le péché jugé et consumé en lui par le Saint-Esprit qui le régénère et le sanctifie. Son œuvre sera jugée au dernier jour et toute imperfection sera brûlée par le feu. Par contre, celui qui refuse de se laisser sauver et purifier, lui sera jeté dans le feu éternel appelé la géhenne. Et ça, ce sera pas, c'est pas le Saint-Esprit, le feu éternel, la géhenne. Troisième symbole, l'huile. Constamment, le Nouveau Testament parle de l'onction du Saint-Esprit. Onction signifie oindre une personne en versant de l'huile sur sa tête. Oindre du Saint-Esprit signifie imprégner les chrétiens de la puissance et des dons du Saint-Esprit en vue du ministère ou du service auquel ils sont appelés. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Pour nous régénérer, nous purifier, nous sanctifier et nous rendre aptes à servir le Seigneur. Jésus dit de lui-même dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus a été oint à son baptême lorsque le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Il est imprégné du Saint-Esprit. Il est un modèle pour nous. Il a été oint pour sa mission qu'il avait à faire ici sur terre. Pierre ajoute dans Actes 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous voyez, Jésus lui-même a été oint. Alors encore plus, nous avons besoin d'être oints du Saint-Esprit. Paul déclare dans 2 Corinthiens 1, 21, « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Ces passages sont des allusions à l'onction d'huile prescrite dans l'Ancien Testament pour les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Par exemple, le roi David, dans Psaume 89, verset 21, où il est écrit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Le Saint-Esprit donne donc la préparation qui est indispensable au ministère. Dans Actes 2, verset 18, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Dans ces jours-là, c'est les jours de maintenant, c'est depuis que le Saint-Esprit était donné à la Pentecôte. La symbolique de l'huile est aussi employée pour représenter l'œuvre de régénération et de sanctification du Saint-Esprit dans le croyant. Le meilleur exemple, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Dans Matthieu 25, les versets 1 à 13, que nous ne lirons pas ce soir, les sages avaient en réserve de l'huile pour leurs lampes, mais pas les folles. Les folles n'en avaient pas. Seules les vierges sages ont pu entrer dans la salle de noces lorsque l'époux est arrivé. Les autres n'avaient pas d'huile, ils ne pouvaient pas rentrer. L'huile représente le Saint-Esprit, sans lequel nul n'appartient à Christ. C'est écrit dans Romains 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et on ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit. On parle de recevoir le Saint-Esprit au moment de la régénération, au moment du salut, quand on accepte le salut. On verra plus en détail la semaine prochaine. Tout comme l'huile permet à la lampe d'éclairer la maison ou le chemin, bien de même, le Saint-Esprit nous donne l'intelligence des vérités célestes. Dans 1 Jean 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, on parle du Saint-Esprit, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, c'est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est facile de lire et de s'égarer, d'interpréter de toutes sortes de façons, même les plus rocambolesques, la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute la vérité. Être oint du Saint-Esprit nous rend aptes à rendre un culte en esprit et en vérité. Dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et ça va de soi parce que nous ne pouvons pas rendre un culte en esprit et en vérité si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire si on n'est pas été régénéré, si on n'est pas sauvé, si on n'est pas dans le Seigneur. Quatrième symbole, la colombe. Tantôt, on a glissé un petit mot. Pendant que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit a descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est ce qui est écrit dans Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « C'est mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi représenter le Saint-Esprit par une colombe? Si on parle uniquement on est dans la nature du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, sans doute pour nous rappeler que comme la colombe, le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse et la pureté. Il ne possède pas seulement la toute-puissance, mais il est aussi un esprit d'amour, de grâce et de consolation. Cinquième symbole, l'eau. Jésus lui-même a employé cette image dans Jean 7, versets 38 et 39. « Celui qui croit en moi, Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans Jean 4, verset 14, Jésus déclare à la Samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, » il parle de l'Esprit, « n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia! Il parlait du Saint-Esprit qui viendrait habiter dans le cœur du croyant. Ce symbole, l'eau, est facile à comprendre. Comme l'eau, la présence de l'Esprit dans un cœur rafraîchit, désaltère, elle satisfait pleinement notre âme. Elle fait apparaître la vie où régnait la désolation et la mort. Elle apporte la plénitude et l'abondance et la déverse tout autour en flots de bénédictions. Le sixième symbole, le sceau. En Israël, le sceau marquait la fin d'une transaction. Un peu comme nous, la signature. Lorsque l'accord était réalisé, l'acte passé, le prix payé, on apposait le sceau sur le contrat pour le rendre définitif. Ceux qui prennent des notes, c'est dans Jérémie 32, versets 9 et 10. Le Saint-Esprit devient ainsi sur nous l'empreinte divine, la marque de la propriété de Dieu. Nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu. Il nous communique l'assurance que nous sommes sauvés et mis à part pour le jour où, dans la gloire, notre rédemption sera devenue parfaite. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés, scellés à poser le sceau, du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, scellés, mettez un sceau, pour le jour de la rédemption. » Et le septième symbole qui est proche du sceau, c'est les ars. A-R-H-E-S. Tantôt, quand je parlais de sceau, c'est S-C-E-A-U. Les ars. La définition des ars est somme d'argent donnée comme gage au moment de la conclusion d'un contrat ou d'un marché en attendant que le solde soit payé. C'est un terme financier qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Les ars, c'est comme un acompte. Le don du Saint-Esprit est en quelque sorte le premier acompte de notre salut final. Dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les ars de l'Esprit. Tant et aussi longtemps que nous demeurons en Christ, nous avons la certitude de notre salut, car le Saint-Esprit qui vit en nous en est la garantie. C'est un acompte qu'on a eu de notre salut final. » Lorsque nous aurons rejoint Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit parmi les hommes? Dans l'Ancien Testament, la différence majeure réside dans le fait que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. C'est pourquoi son ministère parmi les hommes avait un aspect temporaire et sélectif. Autrement dit, le Saint-Esprit pouvait résider, s'opposer et même remplir certaines personnes momentanément dans le but d'accomplir certaines tâches particulières. Mais ce ne sont pas tous les croyants, tous les fidèles qui croyaient au Messie, aux promesses des prophètes qui étaient touchés par le Saint-Esprit. Et son action n'était pas permanente. Par exemple, Nombre 27, verset 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Dans Nombre 11, verset 26, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Avant, les 70 anciens ne l'avaient pas, mais là, ils l'ont eu pour accomplir une tâche particulière. Et la même chose pour Josué. Dans le Nouveau Testament, là, ça commence à changer. Dans les Évangiles, l'Esprit était près des croyants, mais il n'habitait pas encore en eux de manière permanente. Toutefois, Jésus leur a promis que le Saint-Esprit résiderait en eux après sa résurrection et son ascension. Parce que pendant les Évangiles, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Dans Jean 7, versets 37 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, ses futurs. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, c'est un petit peu comme dans l'Ancien Testament. Dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, sera au futur. Il sera en vous. » C'est une promesse, il va être en vous. Parce qu'il va prier le Père va envoyer le Saint-Esprit, lorsqu'il va être donné, là, il va venir vivre dans le croyant. Mais pendant les Évangiles, pendant que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Jésus était là. Ici, Jésus mentionne que le Saint-Esprit demeure déjà avec les croyants, c'est-à-dire qu'il est déjà parce qu'ils sont avec le Seigneur, mais que dans un futur proche, il va habiter en eux. Il y a une grande différence. Cette promesse s'appuie sur la prophétie de l'Ancien Testament dans Joël 2, versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ces jours-là, c'est après la Pentecôte. Cette prophétie s'est réalisée le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, dans Actes 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Imaginez. Quel événement ils ont vécu. Plus loin dans Actes 2, versets 16 et 18, Pierre explique à la multitude, parce qu'au son de ce vent impétueux, les gens, une multitude s'est assemblée, s'est venue voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il leur explique. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, ce qu'on a lu tantôt, la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, depuis cet événement, le Saint-Esprit vient habiter dans tous les croyants de manière permanente. C'est là que le gros changement s'est fait par rapport à l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et c'est pour ça que le corps du croyant est appelé le temple du Saint-Esprit. C'était pas ainsi dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Alors, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit et bien prendre soin de notre corps, rester dans la sanctification, dans la pureté, selon la volonté de Dieu. Alors, on va s'arrêter ici pour cette semaine. Amen.